Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelle-le !» On appelle donc l'aveugle, et on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit, « Rabbouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole du Seigneur. Mes amis, pour comprendre le texte de l'évangile d'aujourd'hui, pour avoir tout le suc du message, il me semble qu'il faudrait retracer le contexte dans lequel il se présente. Notre Seigneur est en voyage, il est en route vers Jérusalem. En fait, c'est depuis quelque temps qu'il est en route vers Jérusalem. Parce que les spécialistes nous disent, quand tu quittais la Galilée, la région de Jésus, pour te rendre dans la région de la capitale, Jérusalem, il te fallait 3 jours de marche. Alors, Jésus est en marche depuis bientôt 3 jours. Et il s'est arrêté, il a fait escale en plusieurs points. Mais aujourd'hui, il fait escale à Jéricho. Et Jéricho, on peut dire, c'était le dernier arrêt avant d'entrer à Jérusalem. Parce que de Jéricho à Jérusalem, tu avais 15 000, on peut dire plus ou moins 30 kilomètres. Et voilà qu'il a fait escale à Jéricho. Maintenant, il est sur le point de quitter la ville de Jéricho et continuer sa route vers Jérusalem. Qu'est-ce qui va se passer à Jérusalem? Eh bien, c'est à Jérusalem que bientôt il va être reçu comme Messie, qui va monter sur un âne et puis entrer dans la ville de Jérusalem. Vous vous rappelez le dimanche de Rameaux que nous célébrons. C'est que ce dimanche, nous assistons au dernier miracle de Jésus. Nous assistons presque à son dernier enseignement avant son entrée à Jérusalem. Jérusalem, comme je l'ai dit, où il va donner sa vie pour la rédemption du monde. Jérusalem, où il va révéler son amour infini envers le peuple et envers Dieu. Mais voilà qu'alors qu'il est en chemin, en train de sortir de la ville de Jéricho pour continuer sa route et aller vers Jérusalem, et il avait hâte d'aller à Jérusalem parce qu'il allait vivre son sacrifice ultime à Dieu. Voilà qu'il y a Bartimée, un aveugle mendiant qui n'était pas sur la route, qui était hors chemin, qui n'était pas dans la foule, mais qui était en dehors de la foule, qui n'était pas avec Jésus, mais qui était isolé. Alors il s'est mis à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » La foule, laisse le maître tranquille, il est occupé, il doit aller à Jérusalem, c'est là qu'il va vivre sa dernière expérience. Mais lui, il n'entend rien de tout ça. Il continue à crier de plus belle. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Mes amis, regardez ce que Jésus fait. Il s'arrête. C'est là notre invitation aujourd'hui. Apprendre à s'arrêter. Regardez, il était pressé, il voulait aller à Jérusalem, ça fait 3 jours qu'il est en cours de route et il vient de terminer son escale à Jéricho, maintenant il se met en route, il veut marcher, il veut aller vers Jérusalem. Et voilà qu'il y a cette personne-là qui l'interpelle. Le Seigneur prend le temps de s'arrêter, prend le temps de comprendre, de faire attention à une personne spécifique, à un individu. Il veut répondre aux cris de détresse de cet homme-là. Le Seigneur fait arrêter son heure. Il arrête le chrono pour une personne. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il laisse tomber son affaire de sacrifice. Il reporte cela. Ce qui compte maintenant, c'est m'arrêter devant cet homme-là qui a besoin de moi. Tout s'arrête. Et même la foule s'arrête aussi avec le Seigneur. Mes amis, je crois personnellement que notre Dieu, en qui nous avons mis foi, en qui nous avons posé notre confiance, notre foi, est un Dieu personnel. C'est un Dieu qui s'occupe de chacun, chacune d'entre nous. C'est un Dieu, comme le dit Matthieu, qui connaît le nombre de nos cheveux. C'est un Dieu qui fait attention aux aspirations les plus profondes de notre cœur. C'est un Dieu qui cherche à entretenir, à avoir une relation de cœur à cœur avec chaque être humain. Une relation de seul à seul avec chaque être humain. Le Seigneur prend le temps de s'arrêter. Dieu prend le temps d'arrêter tout pour nous se mettre à notre écoute, pour répondre à notre cri de détresse. C'est cela l'image que Jésus nous présente aujourd'hui dans l'évangile d'aujourd'hui. En fait, il met en valeur la dignité humaine. Qu'il n'y a rien qui dépasse la dignité humaine. Pas de projet, pas de plan, pas quoi que ce soit. Tout doit revenir sur la dignité humaine. Malheureusement, nous avons entendu qu'hier, il y a eu cette fusillade-là dans la synagogue de Pittsburgh. Ça encore, c'est manquer de respect à la dignité humaine. On tue pour tuer. La vie de Dieu, Dieu l'a donnée gratuitement. Il n'y a personne qui a le droit d'enlever la vie d'un autre. Que cette personne-là ne partage pas ton opinion, que cette personne-là appartienne à une autre culture, que cette personne-là appartienne à une autre religion, c'est une personne humaine. Il faut respecter sa dignité. Il faut s'arrêter pour elle. Parce que, eh bien, cette personne-là, son ange voit la face du Père, comme disait Jésus. Alors aujourd'hui, nous sommes invités à mettre en évidence cet amour envers chaque personne. Regardez, suivons l'exemple de Jésus. Dans nos préoccupations quotidiennes, dans notre planification, dans tout ce que nous voulons faire dans la vie, faisons-le. Mais quand sur ce chemin-là, sur cette route-là, nous entendons un cri de détresse, arrêtons-nous. Arrêtons notre chrono. Laissons les choses aller, occupons-nous de cette personne-là, répondons à ce cri de détresse. Voilà le message que le Seigneur nous offre aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout. Il y a cet aveugle-là, Bartimée. Alors Bartimée, nous le regardons, il nous donne un exemple qui parle beaucoup. C'est d'abord celui qu'on veut écarter. Malgré tout, il insiste, il veut aller vers Jésus. Et quand il est libéré, quand Jésus a entendu son cri, quand Jésus l'appelle, alors il bondit de joie. Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève son manteau, il se libère, il devient libre, il devient léger pour aller vers le Seigneur. Vous savez, notre manteau, c'est quoi? C'est le manteau de la gêne. Nous sommes gênés aujourd'hui de parler de Jésus. Nous sommes gênés aujourd'hui, nous sommes mal à l'aise de nous dire chrétiens, chrétiennes, même au restaurant. Nous ne sommes pas dans notre peau quand nous commençons à parler de Dieu en public. Il faut enlever ce manteau-là. Il faut se débarrasser de ce manteau pour être léger et être en mesure d'entrer en communion avec le Seigneur et de parler aisément de lui et de lui porter témoignage et d'être fier de lui comme lui est fier de nous et de savoir faire du cœur à cœur avec lui comme lui-même s'est fait du cœur à cœur avec nous. C'est le manteau de l'orgueil que nous sommes appelés d'enlever qui va nous rendre légers. C'est le manteau de la lourdeur, des hésitations, le manteau des doutes que nous sommes appelés à enlever pour bondir et aller à la rencontre du Seigneur. Bartimée va arriver à voir. Il sera guéri à cause de sa foi, de sa grande foi. Mais quand il est guéri, quelque chose de spécial s'est fait. Il n'est pas seulement guéri physiquement, mais il est aussi guéri spirituellement. Parce qu'il va se rendre compte, quand il sera guéri, que Jésus est en route, qu'il est en train de partir à Jérusalem. Alors, de son intérieur, il va voir vraiment que c'est lui le Messie. Et même quand il n'avait pas commencé à voir, il avait déjà cette vue intérieure. Il voyait, il avait la vision intérieure qui a permis de dire que Jésus était le Fils de Dieu, il était le Fils de David, c'est-à-dire le Messie de Dieu. Alors, maintenant qu'il est guéri physiquement, il est en mesure de voir le chemin qui va à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va suivre le destin de Jésus. Il ne laisse pas de côté. Il ne va pas laisser la foule à l'écart. Il va avec la foule, il va avec Jésus, il se met en route et il va vers Jérusalem. Et vers Jérusalem, c'est la route de la fidélité envers Dieu, c'est la route de l'amour, c'est la route du don du soi. Et lui, non seulement il l'a vu physiquement, mais il a vu aussi que le Seigneur l'invitait à le suivre sur cette route-là de la conversion, de l'amour sans calcul, cette route-là qui nous conduit à vivre la fraternité jusqu'au bout. Donc la vision spirituelle. Nous autres là, nous n'avons pas tellement besoin de vision physique. Nous voyons, nous nous voyons. Alors, ce qu'il nous faut, c'est demander au Seigneur la cécité, la guérison de la cécité spirituelle, intérieure, la cécité du cœur. Alors, cette cécité du cœur est provoquée par notre suffisance. Notre suffisance nous immobilise, nous fait plonger dans l'obscurité du péché, dans l'obscurité de l'égoïsme, dans l'obscurité de la haine, dans l'obscurité de l'esprit de vengeance, dans l'obscurité de chercher du mal à l'autre, dans l'obscurité de vouloir nous mettre toujours en premier. Voilà la cécité dans laquelle nous sommes et dont on a besoin d'une délivrance, que le Seigneur vienne nous libérer, que nous puissions le voir, qu'on puisse le voir dans les événements de tout le jour, que notre cœur puisse voir Dieu, qui est cette vision intérieure, qui sait lire les signes de Dieu dans les différents événements de notre vie, dans tous nos engagements, dans nos conversations, qu'on puisse accepter, qu'on puisse arriver à voir Dieu. Voilà que nous avons, vous et moi, aujourd'hui, besoin de cette guérison spirituelle pour arriver à voir Dieu dans tout ce que nous faisons. Parlant de cécité intérieure, j'ai un ami, un couple ami en fait, qui ont 3 enfants, 2 filles, 1 garçon. Le garçon est entre les 2 filles. Moi j'ai marié les 3 garçons, je veux dire les 3 enfants. Malheureusement, l'enfant, le garçon, il s'est marié. Il a eu 4 enfants. Quelques années après, il a eu un problème de la rétine. En fait, d'après le médecin, c'est un problème en fait génétique. C'est dans la famille. Officiellement, il est déclaré aveugle. Il ne peut pas très bien voir en fait. Il ne peut pas travailler. Alors, ça fait des années. Maintenant, le 26 juillet dernier, c'était la fête de Sainte-Anne, comme vous le savez, le 26 juillet. Papa et maman lui disent, écoute, viens avec nous, nous allons aller à Sainte-Anne-de-Beaupré. On va les prier, il y a toujours une prière pour les malades. Allons simplement, on va se présenter devant le Seigneur. Lui n'a pas hésité, il a accompagné ses parents. Et ils sont partis le 26 juillet et ils ont assisté à la messe à Sainte-Anne-de-Beaupré. Alors pendant que le prêtre passait avec le Saint-Sacrement devant le malade, arrivé devant le garçon qui s'appelle Nicolas. Nicolas dira plus tard que quand le prêtre s'est arrêté devant moi avec le Saint-Sacrement, j'ai ressenti une chaleur immense envahir tout mon corps. Puis le prêtre est passé. Alors il dira à sa mère et à ses parents après la messe, moi là, je n'ai plus besoin de voir parce que j'ai ressenti Dieu, j'ai vu Dieu dans mon intérieur. Je ne peux plus. Aujourd'hui, je ne demande plus de voir, d'être guéri physiquement. J'ai saisi le message. Je peux continuer à vivre comme ça. Et m'ont dit les parents, parce que je les ai visités quelques temps après, je ne savais rien, sinon ils m'ont raconté l'histoire. Et puis, ils me disent qu'à partir de ce moment-là, il était comme tous les jeunes. Aujourd'hui, il va à la messe le dimanche, demain, il ne va pas. Là, depuis ce temps-là, chaque dimanche, il va à la messe avec ses enfants. Et puis, Il disait à sa mère, quand l'abbé Jacques va venir, dites-lui, je vais me confesser. Voyez-vous, il y a eu une transformation. Moi, je me dis, il y a eu une guérison intérieure. Le garçon a accepté devant Dieu son état de malade, sa cécité physique, mais il a été guéri de la cécité intérieure. Il voit les choses autrement. Il n'a plus besoin, dit-il, il n'a plus le besoin de demander qu'il soit guéri. Il faut le faire. Et ce n'est que Dieu qui peut donner cela. Ça, c'est un cas concret où Dieu guérit intérieurement. Dans la messe d'aujourd'hui, c'est la grâce qu'on va demander. Le Seigneur pose la question à chacun, à chacune d'entre nous. Que veux-tu que je fasse pour toi? Certainement que vous et moi, nous allons demander que le Seigneur nous guérisse de cette cécité intérieure, que nous soyons en mesure de le voir, lui, le Dieu de lumière, qu'en le voyant, lui, le Dieu de lumière, que vous et moi, nous devenions des fils et des filles de lumière dans ce monde-ci, et que dans notre manière de vivre, en étant fils et filles de lumière, eh bien que nous apportons tant de lumière au monde qui tourne autour de nous, et qu'au jour le jour, nous ayons cette vision intérieure, que nous ayons cette lumière intérieure qui nous conduit toujours à Dieu et qui nous fait découvrir les signes que Dieu ne cesse de nous envoyer au jour le jour, à chaque moment, au quotidien de nos jours. L'Eucharistie que nous prenons maintenant, le corps et le sang de notre Seigneur, vient nous faire entrer dans la communion de vie et dans la communion d'amour avec le Christ. Quand on a communion avec foi au Christ, à ce moment-là, on commence à agir comme lui. Et quand on agit comme lui, alors on commence à aimer comme lui, on commence à servir comme lui, on commence à illuminer notre entourage comme lui. C'est cette grâce-là qu'on va demander dans la messe d'aujourd'hui. Amen. Je crois en Dieu, l'auteur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, était conçu du Saint-Esprit, de la Vierge Marie, à ce Saint-Joseph. Je suis mort à Saint-Sébéli, le Saint-Joseph d'un Père, excusez-moi, monté au ciel, est assis à la droite de terre. Et à Saint-Église catholique, à la communion des saints, à la mission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Pour notre rédemption, Dieu envoie son Fils comme Messie et prêtre éternel. Assuré de tant de bienveillance et de sollicitude, tournons-nous vers lui pour lui confier les besoins de l'Église et des nations. Écoute-nous.
Pour l'Église, afin qu'elle persévère dans la louange de sa chérie et dans le témoignage rendu au Seigneur, qui est